Je ne vais pas parler uniquement de la gestion des finances des villes, mais plutôt de la négociation de l'impôt entre la monarchie et les villes, et de la façon dont, par le biais justement du recouvrement des impôts du roi par les villes, on va assister à une imbrication progressive entre les finances du roi et les finances des villes. Alors j'avais décidé de consacrer une première partie un peu à l'identification de ces pouvoirs locaux avec lesquels on négocie, mais ça me semble un peu long. Juste ceci, voilà, un des moyens de l'accroissement des recettes du roi, c'est quand même l'accroissement de l'impôt. Et cet accroissement de l'impôt, lorsqu'il ne s'agit pas des douanes qui font partie du patrimoine royal, ou des monopoles tels que le sel ou tels que ce que l'on extrait des mines, eh bien, il passe par des impôts qui sont négociés avec les villes. Alors, soit ce sont les alcabalas qui font partie du patrimoine royal, mais dont le montant se négocie. On ne négocie pas le fait de devoir payer des alcabalas, mais on en négocie le montant depuis que les alcabalas sont prélevés par abonnement. Et puis sinon, il y a toute forme d'impôts que l'on appelle les services, ainsi que des dons, les Français du 18e, puisque j'ai un peu consulté la documentation en français, appelé ça des donatifs, c'est très joli. Les donatifs et autres cadeaux faits au roi, tout ça se négocie soit à travers les Cortes, soit directement. Donc c'est de ça que je vais parler. Donc je voulais consacrer un petit peu de temps justement à l'identification de ces pouvoirs locaux avec lesquels le roi négocie. Je ne vais pas m'y attarder parce que la séquence d'aujourd'hui est concentrée sur les finances et que sinon je ne tiendrai pas le temps. Mais juste rappeler ceci, les historiens des années 80-90 ont beaucoup travaillé justement sur l'organisation des pouvoirs locaux et sur l'identité de ces élites qui tiennent les villes. Et ils ont évoqué ce qu'ils appellent, alors je traduis littéralement, c'est pas très joli, l'oligarchisation, c'est-à-dire la transformation des élites locales en oligarchie, donc en groupes de pouvoir qui tiennent à la fois le pouvoir économique, le pouvoir social, le pouvoir culturel, le pouvoir financier bien sûr. Ce sont des groupes de familles très liés entre elles, qui tiennent notamment les gouvernements des villes et qui, par le biais d'un certain nombre de mécanismes, vont renforcer ce pouvoir. Alors, ces mécanismes, pour la Castille, on assiste à partir du début du XVIe siècle à une fermeture des gouvernements de villes, c'est-à-dire que les villes étaient beaucoup régies par ce qu'on appelait des conseils ouverts, cabildos abiertos ou concejos abiertos. De plus en plus, les décisions vont se prendre dans des cabildos qui sont réduits aux échevins, aux titulaires, donc de charge de regidores de 24, alors parfois avec une deuxième chambre de jurados, hein, des gens qui sont titulaires de leur charge. Il est de plus en plus fréquent au XVIe siècle que le gouvernement des villes, que les décisions importantes tout au moins, ne se prennent que dans ce cercle restreint. Hein. D'autre part, au fil du XVIe siècle, justement ces charges d'échevins ou de jurats deviennent peu à peu le patrimoine de certaines familles. Le roi donne ses charges à des individus et les familles font en sorte d'obtenir que par un biais ou par un autre, ces charges soient transmises à leurs héritiers. Alors il y a des procédures de renonciation dans un délai limité, qui doit être un délai minimal avant la mort du titulaire, et on peut renoncer en faveur de son fils, de son gendre, de son beau-frère, en s'accordant avec le roi sur les modalités de cette renonciation. Et puis au XVIIe, ce à quoi on assiste, c'est à l'acquisition par les familles de ces charges à perpétuité, regidurias perpetuas, ce qui évidemment contribue à verrouiller en partie l'accès au gouvernement des villes. Alors le verrouillage n'est jamais complet, et les chercheurs qui ont étudié ces oligarchies municipales montrent qu'il y a une certaine variété sociale, hein, certaines villes dans lesquelles ces charges sont notamment tenues par des gens qui sont issus de ce que l'on appelait encore dans les années 80 la bourgeoisie marchande, c'est-à-dire qu'ils sont marchands banquiers ou ils sont directeurs de d'ateliers textiles quand il y en a encore. Il y en a plus au XVIe qu'au XVIIe siècle. Mais ils acquièrent déjà un mode de vie noble et souvent ce sont des familles qui sont en voie d'ascension sociale, d'acquisition de l'hidalguilla et parfois d'un mode de vie de caballeros avec le titre de donne, des habits d'ordre militaire, etc., etc. et dont les fils parfois vont abandonner l'activité de leur père pour vivre de la rente. Un des moyens aussi employés pour fermer certains gouvernements de ville, c'est pas la majorité, ce sont les statuts de pureté de sang. Alors là aussi, souvent, il faut être assez nuancé dans leur analyse, souvent les villes adoptent les statuts de pureté de sang quand, en gros, les familles qui étaient en ascension sociale ont déjà investi la ville, et non pas avant. Donc c'est plutôt fait pour, en quelque sorte, consolider des situations acquises par ces familles en ascension sociale au XVIe siècle que pour leur fermer la porte. C'est le cas à Ségovie, où ce statut est adopté au début du XVIIe siècle, c'est-à-dire fort tard, finalement. Et en plus, au moment où déjà tout le monde commence à oublier les origines des familles conversas. C'est le cas à Murcie aussi, où cela vient assez tard, après les grands procès dont a parlé, les grands procès inquisitoriaux dont a parlé Jaime Contreras des années 50. Mais enfin, il y a quand même voilà, un phénomène de fermeture de l'accès au gouvernement des villes, un phénomène de patrimonialisation des offices municipaux, qui a fait que les historiens ont pu parler de véritables groupes de pouvoir qui tiennent les villes importantes de la Castille. C'est avec ces gens-là que négocie le roi. Alors, en Aragon, ça se fait suivant des modalités différentes. Là, l'accès au gouvernement des villes a été en quelque sorte un peu plus large socialement, mais aussi stabilisé et de plus en plus réservé à certaines familles, du moins pour les charges importantes. Ce qui fait qu'au début du XVIIe siècle, dans des villes comme Valence, par exemple, ou Catalogne, on peut observer aussi que le pouvoir important commence à se trouver aux mains d'un véritable patriciat. Donc les historiens qui ont comparé les deux, alors j'ai cité dans la bibliographie Fortea Pérez et puis Passola, vous trouverez les titres complets dans la bibliographie que je vous ai apportée, insistent plutôt sur les affinités entre ce qui se passe dans la couronne d'Aragon et la couronne de Castille plutôt que sur les différences. Ces gens-là n'ont pas d'autonomie totale pour gouverner la ville en général et ses finances en particulier. Pour ce qui est des finances, les villes de Castille distinguent deux sortes de biens. D'une part les propios, los bienes de propios, ce sont les biens patrimoniaux de la ville. Et d'autre part, on les oppose en général aux arbitrios, qu'on pourrait traduire par les expédients. Alors, dans certaines villes, la différence de catégorie correspond à la nature des biens. Ça serait d'un côté biens immobiliers, de l'autre plutôt des biens mobiliers. Mais ça n'est pas toujours le cas. En fait, la différence principale, c'est que voilà, les propios font partie du patrimoine de la ville et donc elle n'a pas à négocier avec le roi l'usage qu'elle doit en faire. Alors que les arbitrios, ce sont des expédients qu'elle doit créer et pour les créer, elle doit demander une autorisation au roi. Parmi les propios, on peut compter des recettes fiscales du type taxes alimentaires. Donc ça n'est pas une opposition entre d'un côté les taxes et de l'autre les biens immobiliers. Comme on peut s'y attendre, les recettes tirées des propios, donc ça peut être la location de biens immobiliers, la location par exemple de pâturage, les revenus que l'on va tirer de l'accès au bois, et puis des taxes sur les marchés de la ville, etc. Les revenus de ces propios sont rarement suffisants pour qu'une ville se finance, et donc il est assez fréquent que les villes demandent au roi l'autorisation de créer des expédients. Suivant la doctrine fiscale qui domine à l'époque, l'expédient doit être forcément exceptionnel. Son montant doit être exactement équivalent aux besoins pour qu'il soit légitime et il ne doit durer que le temps du besoin. Donc on va négocier avec le roi à travers le conseil de Castille et non pas le conseil des finances, c'est du ressort du conseil de Castille. Le droit de lever souvent une nouvelle taxe, de mettre en location un nouveau bien pour en tirer des revenus supplémentaires. Donc il existe cette dépendance-là qui est très importante parce qu'elle va être l'objet de négociations lors des négociations de l'impôt avec le roi. Donc voilà, donc ces gens ne sont pas complètement autonomes, mais en même temps, et ça aussi, on a beaucoup travaillé dessus ces dernières années, alors pas forcément dans les histoires sur les finances, mais aussi dans des histoires qui se voulaient plus directement politiques. Les villes se conçoivent comme de petites républiques. Et notamment, les échevins les décrivent comme de petites républiques. Elles sont perçues de l'extérieur par les voyageurs comme de petites républiques. Encore au début du XIXe siècle, c'est quelque chose qui apparaît même à certains voyageurs comme une caractéristique espagnole. Je ne l'ai pas mis dans la bibliographie et j'aurais dû. Il y a un excellent livre de Juan Carlos Chiaramonte. En gros, le concept de peuple, les concepts de peuple et de nation en Argentine dans la première moitié du XIXe siècle. Et il explique ce dont dispose l'Argentine au début du XIXe siècle, c'est de l'héritage espagnol, c'est-à-dire un corps politique qui est fondé de l'agglomération de petites républiques. Et le problème de l'Argentine, d'après Chiaramonte, au début du XIXe siècle, c'est que entre ces petites républiques et la monarchie, il n'y a rien. Il n'y a pas de niveau intermédiaire qui fonctionne véritablement, d'où les difficultés que vont connaître l'Argentine et d'autres pays pour délimiter des frontières et pour constituer des strates administratives et politiques intermédiaires, des États, des nations. Et alors, il cite en particulier le texte d'un voyageur, justement, qui a parcouru l'Espagne et l'Amérique entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe, qui décrivait, justement, ce monde de petites républiques qui formait la monarchie hispanique. Donc, ce sont de petites républiques qui se définissent notamment par des privilèges, notamment celui de s'organiser, alors bien sûr en obtenant ratification par le roi des ordenanzas qui organisent le gouvernement de la ville. Et dans ces petites républiques, les gouvernements de ville, donc qui sont toujours des organismes collégiaux, l'ensemble des échevins, accompagnés dans une cinquantaine de villes du corregidor, c'est-à-dire du délégué du roi qui est présent dans la ville, qui fait partie du consejo, qui vote. Alors son vote pèse parfois plus lourd que celui des échevins, pas toujours. Donc ces gouvernements des villes régissent toute la vie de la ville. Les regidores vont fixer les taxes alimentaires, vont s'occuper de l'approvisionnement. Et par le biais de l'approvisionnement, ils vont fixer le prix de nombreux aliments de base. Donc leurs décisions vont avoir une incidence très forte sur la vie des habitants. Ils consacrent parfois une part très limitée des recettes de la ville à l'éducation, en payant parfois un maître, c'est assez rare. Ils partagent avec l'Église le soin des pauvres et des orphelins. Ils reconnaissent les corps de métier et leurs ordonnances, les ordonnances qui régissent les corps de métier. Ils régulent l'accès des habitants aux biens communaux, et donc, par ce biais-là, ils exercent une action économique qui a de véritables des traductions directes sur la vie des habitants, sur l'accès aux ressources des habitants. Ils exercent une juridiction de première instance sur la ville, alors qui est souvent en fait exercée par les seuls alcaldes, mais au nom de la ville, et de deuxième instance sur ce qu'on appelle la tierra, qui est en fait le territoire qui est situé autour de la ville, plus ou moins, parce qu'on n'a pas forcément les territoires continus, mais enfin, la terre qui est située sous la juridiction de la ville, c'est-à-dire que par exemple, la ville va avoir son mot à dire sur le choix des autorités des villages alentours, qui dépendent d'elle. D'ailleurs, les grandes villes ou les villes moyennes fonctionnent comme des seigneurs sur leur territoire. Ça a été très bien décrit, notamment pour la ville de Séville, par Martinez Ruiz. Toutes ces fonctions, évidemment, sont autant de sources de pouvoir pour les échevins, qui vont attribuer des emplois municipaux, et notamment des emplois municipaux qui sont liés aux finances, c'est-à-dire des emplois qui, par exemple, concernent le contrôle des marchés, la gestion des recettes de la ville, la gestion du grenier à blé, la gestion, parce que c'en est une, de la maison close municipale jusqu'en 1623, l'attribution des contrats d'affermage, l'attribution des contrats surtout de fourniture de biens de première nécessité, la viande, le vin, le poisson parfois, le blé surtout. Ils vont aussi organiser la distribution des impôts directs sur les individus, puisqu'il y a quelques impôts qui en principe sont perçus comme des impôts directs. C'est ce qu'on appelle au XVIe siècle les services ordinaires et extraordinaires. Ce sont en principe, je dis bien en principe, des impôts directs payables par les seuls roturiers, donc ni les nobles ni les ecclésiastiques, les pecheros, comme on dit, puisqu'on appelle ces impôts pechos. Et si vous avez lu, par exemple, Lazarillo et Tormes, vous savez qu'il peut arriver à un petit hidalgo pauvre de connaître la déchéance parce que justement sa ville refuse de le connaître comme un hidalgo puisqu'il ne vit plus comme un hidalgo. Ça suscite un certain nombre de procès qui sont d'ailleurs tranchés par le roi, par le biais de la chancellerie de Valladolid par exemple. Mais voilà, c'est un des exemples du pouvoir énorme que peuvent exercer les villes, puisque par le biais de l'établissement de ces listes, elles vont pouvoir décider à leur niveau, si les contribuables ne se rebiffent pas, qui est noble et qui ne l'est pas. Donc on a des gens qui, au plan local, régissent toute la vie économique de la ville et ont un pouvoir certain. Et puisque ces gens vont se consolider comme groupe de pouvoir, ça veut dire que ce qui se constitue, ce sont des clientèles dont la tête est l'échevinage, et dont les étages inférieurs, ben, ce sont tous les gens qui tiennent, voilà, le grenier à blé, le prélèvement des recettes locales lorsqu'il y a un prélèvement direct, l'approvisionnement des villes surtout. Voilà, c'est entre parenthèses, ces clientèles. Sont véritablement les acteurs politiques, hein, tout à fait en dehors du monde des finances. Lorsque l'on étudie, par exemple, les soulèvements que connaît la Castille au XVIIe siècle, ce qu'on a bien montré dans les années 80-90, c'est que les acteurs de ces soulèvements, il fallait pas les comprendre comme des mouvements des pauvres contre les riches, hein, ou des roturiers contre les nobles, mais plutôt comme des affrontements entre clientèles. Ce sont ces clientèles-là qui sont les acteurs politique. Alors, j'en viens maintenant plus directement aux finances. Je voudrais partir, avant de me lancer dans un récit chronologique, peut-être d'un petit bilan de ce qu'a été l'historiographie des finances, grosso modo, dans les 30 dernières années, pour l'Espagne en général et pour la Castille plus particulièrement. Il y a trois types de recherches qui ont suscité beaucoup d'engouement chez les chercheurs et qui intéressent, ceux qui justement s'intéressent à l'histoire de la ville et de ses relations avec le roi. D'abord, des études de la fiscalité royale. On a fait une histoire beaucoup plus politique, beaucoup plus soucieuse de prendre en considération les représentations des individus et leurs stratégies. Alors là, je n'ai pas mis de bibliographie longue parce qu'il faudrait en citer énormément. Donc je vous renvoie à la synthèse que donne Bernat Hernández, ou Bernardo, puisqu'il signe sous les deux noms, qu'il a donné en 1998, et à celle que j'ai publiée, moi, en 2000, Finances et réformes financières, c'est en haut de la page 2. Ces recherches ont conduit, entre autres, à une réévaluation de l'évolution de la pression fiscale. On a notamment nuancé l'idée d'un fort accroissement de la pression fiscale au XVIIe siècle, montrant que la pression fiscale s'accroît plus vite en Castille au XVIe siècle qu'au XVIIe, et qu'en Castille, elle s'accroît plus vite qu'ailleurs au XVIe siècle, alors qu'au XVIIe siècle, le décrochage se fait dans l'autre sens, ce qui pourrait peut-être expliquer, par exemple, pourquoi au XVIIe siècle, c'est l'Espagne qui perd ses guerres contre la France de Louis XIV. Bon, enfin, je vais peut-être un petit peu vite en besogne. Mais enfin, l'Espagne peut moins tenir contre Louis XIV parce qu'elle a moins de ressources au XVIIe siècle. On a mis aussi dans ces travaux en lumière la participation croissante des villes au recouvrement des impôts qui sont dus au roi, et notamment le recouvrement des alcabalas. Donc, je vous le disais tout à l'heure, et Carlos en parlait ce matin, les alcabalas, ce sont des taxes sur les échanges, hein, l'équivalent de notre TVA. C'est normalement un impôt de 10%. Légalement, c'est un impôt de 10% qui se paye sur chaque vente, donc du produit primaire au produit fini. Il est évident que si on le percevait tel que la loi le définit, ça serait insupportable, parce qu'il pourrait y avoir plusieurs 10% jusqu'à la vente du produit fini. Donc très très vite, comme l'expliquait Carlos ce matin, les villes négocient la perception de cet impôt avec le roi et s'abonnent. Alors ce sont soit les villes qui s'abonnent, soit les corps de métier. Hein. C'est-à-dire qu'une ville s'accorde avec le roi sur un montant global, une enveloppe, elle s'accorde aussi sur les échéances et ensuite elle s'occupe de percevoir le détail de cet impôt, ce qui permet en fait... Ça a été assez bien étudié au XVIe siècle par des gens comme Forteza Pérez ou comme David, Alonso Garcia, au niveau des villes de Castille, ce qui permet de percevoir cet impôt dans la réalité à des taux qui se trouvent entre 2% et 5%, et sur quelques biens et non pas sur tous les biens vendables. Donc de réduire considérablement le montant de cet impôt par rapport à ce qu'il serait si on le payait vraiment au taux légal. Ceci dit, au XVIe siècle, il est très rare qu'on arrive à le payer au taux légal de toute façon. Et d'autre part, les villes payent au roi des services. Les services, ce sont des contributions gracieuses, c'est-à-dire que les contribuables les décrivent, les contribuables et les bénéficiaires, hein, alors, bénéficiaires d'un service, ça peut être le roi, ça peut être toute autre autorité, mais enfin on s'intéresse ici à la fiscalité royale, ce sont des contributions qui sont décrites comme gracieuses, libres, et par conséquent, elles sont toujours perçues comme, présentées comme exceptionnelles, extraordinaires, justifiées par une bonne raison, hein. Ce que j'expliquais tout à l'heure pour la fiscalité, pour les expédients municipaux, vaut aussi pour la fiscalité royale. Et elles sont bien évidemment assorties de contreparties, parce qu'on ne fait pas un service sans raison. Il faut le mériter, le service. Alors on verra justement tout à l'heure quelle est justement l'évolution de ces services. Donc ce qu'on a mis en lumière dans ces histoires de la fiscalité, c'est le fait que voilà, ce qui augmente au XVIe siècle parmi les impôts payés par les villes, ce sont d'abord, alors si on prend notamment le règne de Philippe II, Philippe II commence à essayer d'augmenter le rapport des douanes, hein, et puis en quelque sorte, au bout de 10-15 ans, ça dépend un peu des impôts, mais il atteint un plafond, hein, qui fait qu'on comprend très bien que si on essayait de hausser encore le rendement des douanes, ce qui se développerait plus que l'impôt, ça serait la fraude fiscale. Hein. Donc Philippe II, à partir de la fin des années 1560, s'efforce d'élever le montant de l'alcabala et le négocie avec les villes à plusieurs reprises et va parvenir à élever le prix de l'alcabala une première fois à la fin des années 1570, une deuxième fois au milieu des années 1580, si ma mémoire est bonne. Et puis à partir de, très précisément, la défaite de ce qu'on a appelé l'armada invincible, 1588, Philippe II négocie avec le royaume de Castille des services que l'on va appeler services de millions, parce qu'ils se chiffrent en millions, donc des services gracieux payés par le royaume. Je reviendrai dessus sur leurs conditions tout à l'heure. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'au XVIIe siècle, ces services vont se multiplier, vont se chevaucher les uns les autres. Hein, c'est-à-dire qu'on votera un service alors que le paiement d'un autre est déjà en cours. Hein, et que même si l'augmentation de la pression fiscale est assez faible par rapport à un pays voisin comme la France, est assez faible par rapport au XVIe siècle, malgré tout, c'est un des biais du prélèvement. Ces services ne peuvent pas faire... en principe, ne peuvent pas être le support d'une dette consolidée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre de juros situés sur ces services, puisqu'ils ne font pas partie des biens patrimoniaux, ce sont des services d'une fiscalité exceptionnelle. Mais en revanche, ces services sont considérés par les banquiers, hein, par les assentistas, comme une consignation intéressante. C'est une des consignations, à condition de trouver la bonne caisse, hein, mais quand on demande une consignation, on précise souvent sur quelle caisse on sera payé. C'est une des consignations les plus recherchées par les banquiers. Ce qui fait que cette fiscalité, même si économiquement elle pourrait être moins rentable que ne vont le devenir certains impôts, notamment des monopoles qui seront bien gérés, politiquement, elle est quand même assez intéressante. D'autre part, on a beaucoup développé les études des finances municipales, surtout dans les années 1990, pardon, me semble-t-il. Alors là, il y a deux types de travaux. Il y a des monographies consacrées à des villes où on aborde tout, y compris les finances, et où on aborde notamment la description de l'oligarchie municipale et de son emprise sur la ville. Et puis, on a eu pas mal de travaux consacrés directement, spécifiquement aux finances d'une ville. Hein. Donc on a décrit pour ces villes la nature de leurs recettes, l'organisation de leurs caisses, leur mode de recouvrement. On a évalué la valeur de ces recettes, le poids de la dette, les raisons pour lesquelles les villes s'endettaient et les politiques mises en œuvre par les villes pour résorber la dette. Et ce qui fait que dans ces travaux-là, on a presque toujours abordé les relations financières qui se tissaient entre une ville et la monarchie, puisqu'une ville ne peut pas s'endetter sans obtenir l'autorisation du roi, et puisque les villes prélèvent les impôts du roi. Hein. Donc, par le biais de ces travaux, on a aussi examiné les relations donc, entre finances du roi et finances de la ville, et on a mis en lumière le caractère négocié de ces relations, le fait qu'aussi bien le roi que les villes avaient des marges de manœuvre. Troisième point qui a été surtout développé par José Ignacio Fortea Pérez, à vrai dire, c'est l'étude de la négociation des contributions versées à la monarchie dans le cadre des Cortes. Fortea Pérez a fait un travail décisif qui a commencé par la publication de ce qui était, je crois, sa thèse d'État en 1990. Et puis il a prolongé ses recherches. Il a étudié les négociations entre le roi et le royaume, en commençant par surmonter le récit classique qui voulait que les Cortes ne soient que la chambre d'enregistrement des décisions d'un pouvoir absolu. Il a montré au contraire qu'elles ont une capacité de blocage, qu'elles ont aussi une capacité de formulation de propositions, et qu'elles parviennent à exercer une forme de contrôle sur le recouvrement des impôts dus au roi, notamment les alcabalas, les services classiques, hein, ordinaires et extraordinaires, ceux qui étaient déjà payés à Charles Quint, et puis les services des millions. Et il a montré autre chose de très intéressant, c'est que les Cortes ne sont pas tout à fait l'expression des villes, hein, ça n'est pas un simple reflet de la volonté des villes et des intérêts de leurs oligarchies, mais qu'au contraire, on observe de fortes tensions entre les institutions qui émanent des Cortes et les Cortes elles-mêmes, et puis les villes qui envoient des délégués. Alors je parle de délégués parce que ce que tu dis aussi, Fortea Pérez, c'est la nature de la représentation. Hein. Il montre bien que l'on est dans le cadre d'une représentation d'Ancien Régime, avec des gens qui sont choisis selon des modalités très diverses. Chaque ville choisit ses échevins en fonction de ses propres statuts. Dans la plupart des cas, ça revient à choisir quelqu'un qui est issu du gouvernement de la ville, mais pas toujours. Hein, dans certains cas, comme à Valladolid, par exemple, on va choisir quelqu'un qui fait partie de l'une des deux grandes familles nobles de la ville. L'effet social est toujours sensiblement le même, hein. On choisit des gens qui font partie du gouvernement de ville ou qui sont liés de toute façon familialement ou par des relations de pouvoir aux familles d'échevins. Mais enfin, chaque ville a sa façon de gérer les conflits internes à ses élites. Voilà. Mais ce qui est important, surtout pour Fortea, c'est de rappeler que les délégués que les villes envoient aux Cortes sont porteurs de mandats qui ne sont pas ouverts. Ils n'ont l'autorisation que de répondre à une partie des demandes du roi. Le roi convoque les Cortes, explique les motifs pour lesquels il les réunit. Lorsque les villes répondent, elles donnent à leurs délégués l'autorisation de répondre oui à une partie des demandes du roi, souvent celle qui correspond au moindre enjeu politique et financier. Et pour le reste, elles ne donnent pas l'autorisation à leurs délégués de négocier. Ce qui fait que les gens qui sont envoyés aux Cortes vont discuter aux Cortes de propositions fiscales, vont proposer des solutions au roi, les discuter entre eux, mais n'auront pas de pouvoir décisif. Et donc, une fois qu'une proposition fera plus ou moins consensus entre les Cortes et les représentants du roi avec lesquels ces Cortes sont en relation permanente, hein, puisque le roi, alors de façon stable à partir du règne de Philippe II, désigne quelques-uns des conseillers du Conseil de Castille pour négocier quotidiennement avec les Cortes, hein. Donc, une fois que ces gens-là arrivent à un consensus, ben, il revient aux délégués des villes de revenir dans leur ville pour demander à leur ville de les autoriser à voter. Donc, Fortea a très bien mis en lumière le fait que, voilà, on peut assister à des décalages très importants, par exemple des procuradores qui, au sein des Cortés, proposent des réformes radicales de la fiscalité ou de l'organisation du crédit, qui retournent dans leur ville est contre, et donc ils seront les premiers à voter contre le projet de réforme à l'initiative duquel ils ont été, au sein des Cortés. Ils ont des mandats impératifs et fermés, ce qui fait que le roi doit négocier avec les Cortés et avec les villes, essayer de faire pression sur les deux. Et ce que montre aussi Fortea, c'est que cette négociation se fait à la fois dans un cadre officiel et dans un cadre officieux, notamment lorsque la négociation se déplace vers les villes. Évidemment, on écrit, le roi écrit au corregidor. Alors, les Cortés écrivent à la ville, bien sûr. Le roi, de son côté, écrit au corregidor et à la ville. Et puis, il écrit aussi à tous les potentats locaux, en commençant par l'archevêque ou le noble du coin, s'il y en a un, pour essayer d'emporter la décision. Ce que montre Fortea aussi, c'est que, bien sûr, du côté du roi, on n'a pas non plus forcément un bloc monolithique, mais que l'on a parfois plusieurs acteurs qui peuvent entrer en conflit les uns avec les autres. Et au XVIIe, c'est très important. Il est assez difficile de savoir quelle est la politique du roi, parce que vous avez en fait la politique du favori, la politique du Conseil des Finances, la politique du Conseil des Castilles. Et notamment une rivalité à peu près permanente entre le Conseil de Castille et le Conseil des Finances, qui se traduit par un désaccord profond sur la façon dont on doit conduire la négociation des impôts royaux recouvrés par les villes, et une rivalité pour savoir qui va contrôler les administrateurs envoyés dans certaines provinces pour recouvrer le produit des impôts. Donc c'est un jeu beaucoup plus complexe que celui qui avait été décrit auparavant. Fortea s'est intéressé aux théories fiscales des acteurs, ce qui lui a permis de comprendre que justement, parler de services plutôt que d'imposition, ça avait un sens politique très différent pour les acteurs, puisque quand il y a service, ça veut dire qu'on peut demander au roi des contreparties, des récompenses, on peut poser des conditions, on peut aussi lui adresser des suppliques. Il a aussi étudié, évidemment, tous les moyens de pression des acteurs qui sont en jeu dans ces négociations, ce qui lui a permis d'arriver à des choses très intéressantes pour les gens qui s'intéressent à la fiscalité. Par exemple, de montrer comment, tour à tour, le roi Philippe II et les villes usent de la mise en régie directe de l'Alcabala, non pas parce qu'ils pensent que c'est le moyen de recouvrement idéal de l'impôt, mais au contraire pour faire pression sur l'autre. Jusqu'ici, on avait écrit, enfin jusqu'aux années 80, grosso modo, dans les histoires fiscales, vous trouviez que, je simplifie, mais que le moyen le plus moderne de recouvrer l'impôt, c'était la régie directe, c'est-à-dire le roi envoie des salariés qui, sur place, vont percevoir l'impôt dans sa définition légale et à son taux légal. Et donc, tout ce qui s'écartait de la régie directe, à savoir le recours à des fermiers ou le recours à l'abonnement, était perçu comme un amoindrissement, je simplifie bien sûr, mais enfin, un amoindrissement du pouvoir de celui qui percevait l'impôt, en l'occurrence le roi, une façon de transiger en quelque sorte avec un monde archaïque et traditionnel, évidemment quelque chose de moins moderne. Ce que montre Fortea et ce qu'ont montré d'autres chercheurs, alors par d'autres biais, en étudiant le recouvrement des impôts, c'est que pour la plupart des acteurs, en général, le choix entre la régie directe et des formes de régie indirecte est assez pragmatique, mais que l'on a tendance, malgré tout, à préférer la régie indirecte, notamment pour le roi, pas seulement par défaut, par manque de moyens, comme on dirait aujourd'hui, parce qu'on manque de salariés, etc., mais aussi pour les raisons que Carlos a énoncées ce matin quand il parlait de l'abonnement, de l'encabezamiento. Recourir à un abonnement ou recourir à un fermier, c'est pour le bénéficiaire de l'impôt la garantie de percevoir des sommes dont le montant est fixé à l'avance, à des échéances aussi fixées à l'avance. Et donc, la possibilité de s'endetter, puisqu'on peut dire à ses créanciers quand on les remboursera. Et en plus, ça évite aussi les conflits avec les contribuables. Si ce sont les villes qui prélèvent les impôts du roi, les alcabalas, eh bien, ce sont elles qui vont avoir à régler leurs conflits avec les contribuables et pas le roi. En tout cas, à trouver la meilleure façon d'éviter l'opposition violente des contribuables. Donc, Philippe II, lorsqu'il utilise la mise en régie directe de l'Alcabala, c'est pour faire pression sur les villes. Il le fait dans ces années 1570, dont parlait Carlos ce matin, hein, parce que les villes ont refusé de rehausser le prix de l'abonnement. Il dit, d'accord, très bien, dans ce cas-là, on revient à la définition légale de l'impôt. Je vous envoie des salariés, on va le percevoir à 10%. Et Fortea montre que certaines villes acceptent de le faire avec une stratégie contraire mais comparable, c'est-à-dire pour montrer au roi que justement, en le percevant à 10%, on n'arrive à rien parce que, selon elle, la ville s'est appauvrie. C'est plus un moyen de conviction et de pression sur l'adversaire que le moyen de perception idéal. Et ensuite, ce qu'a montré Fortea pour finir, c'est que dans cette dynamique de négociation, les accords passés ne sont pas nécessairement faits pour être appliqués, littéralement. Par exemple, au XVIIe siècle, ça a été assez bien montré par André Sucendo. Je me rends compte que je ne l'ai pas mis dans la liste, que je l'ajoute. André Sucendo. La plupart des services des millions ne sont pas payés intégralement. D'abord, ils sont payés avec un retard qui s'accumule. Dans les années 1680, on voit des receveurs de ces impôts qui sont encore en train d'essayer de recouvrer le service qui a été voté à la fin des années 1650, dans les années 1660. Et puis, aucun n'est payé intégralement. Donc, les villes, ne satisfont pas à leurs engagements, mais le roi ne satisfait pas davantage à son engagement. Et notamment, une partie des conditions de ces services concerne la dépense de l'impôt. Or, comme Carlos le disait ce matin, le roi n'a jamais consulté les villes sur la dépense de l'impôt. Il a fait ce qu'il voulait. Même si, en théorie, dans les accords des services des millions, on stipulait à quoi devait être employé l'impôt et à quoi il ne devait pas être employé. Alors, beaucoup de ces recherches, finalement, ont cherché à mieux comprendre les représentations que les acteurs associaient à ces pratiques de négociation et de recouvrement des impôts, pour éviter toute forme d'anachronisme, toute forme de lecture très progressive de cette histoire. Ce qui a conduit à relire dans ce sens des projets de réforme fiscale qui émanaient des cortes, des villes ou des donneurs d'avis. Ce qui a conduit aussi à comprendre autrement l'action des favoris du roi, comprendre autrement les formes de gestion de l'impôt, et à renoncer par exemple à des oppositions du style roi moderne contre société archaïque, Philippe II, roi archaïque contre bourgeoisie moderne des cortes, Philippe III, c'était les oppositions assez classiques. Bon. Par le biais de cette histoire des finances qui a été écrite par plusieurs chercheurs dans les années 1990, on est revenu sur ce genre de modèle et on s'est aussi intéressé à des objets nouveaux qui avaient été très méprisés auparavant, comme le règne de Charles II. On a un peu découvert qu'il y avait une reprise économique et qu'il y avait des réformes fiscales sous Charles II, dans le cadre justement de ce renouveau de l'histoire des finances. Donc c'est un peu dans ce cadre que se situe ce que je vais vous décrire maintenant. Au XVIe et au XVIIe, on assiste au processus suivant. Les villes vont prendre en main, par étapes, le recouvrement d'impôts importants du roi. Alors ça n'est pas toutes les ressources du roi. Le roi conserve les impôts de son patrimoine, il conserve les fruits de la vente d'offices, titres, etc., conserve les douanes, ils conservent ses monopoles, mais elles vont prendre en main le recouvrement d'une partie importante de ces impôts, et par ce biais-là, les finances des villes vont se trouver de plus en plus confondues avec celles du roi. Ça commence juste après la guerre des Comunidades, en quelque sorte, lorsque Charles Quint cherche finalement à renouer le fil d'une négociation avec les pouvoirs locaux. Il parvient à obtenir deux choses de la part des villes. D'une part, le paiement régulier d'impôts qui jusque-là étaient accordés au roi de façon ponctuelle mais pas constante, les services ordinaires et les services extraordinaires, qui sont donc des impôts payés par les seuls roturiers sous forme d'impôts directs en principe. Donc à partir des années 1530, grosso modo, ces impôts sont payés tous les 3 ans. Et d'autre part, Charles Quint obtient des villes en 1536 que les villes acceptent un abonnement général de l'Alcabala. C'est-à-dire que ça n'est pas un abonnement ville par ville, comme c'était le cas pour une partie des villes, pas toutes, dans les années 1520. Mais le royaume, en tant que tel, est solidaire pour un montant global. La contrepartie, c'est que le royaume organise le recouvrement. Et au niveau des villes, ce sont les gouvernements locaux qui, finalement, vont avoir le choix des modalités de recouvrement de l'impôt. La Forte a beaucoup travaillé dessus et a montré, en étudiant quelques cas, que cela se traduisait par une modification de la nature de l'impôt. Certains services, parfois dans des grandes villes, ne sont plus perçus comme des impôts directs, mais comme des taxes sur la consommation, qui du coup affectent tout le monde, et non pas les seuls roturiers. À l'inverse, pour les alcabalas, les villes combinent souvent plusieurs choix. Alors elles vont négocier des enveloppes, en quelque sorte, avec les corps de métier, donc des abonnements, recourir pour une partie du prélèvement à des taxes sur la consommation, procéder à des repartimientos, des derramas, c'est-à-dire répartir une partie de la somme par impôt direct sur les habitants. Enfin, elles vont procéder à des dosages très différents d'une ville à l'autre qui tiennent souvent à la réalité économique et sociale de la ville et aux rapports de force qui peuvent se tisser entre les différents groupes sociaux de la ville. Hein, parce qu'évidemment, par ce choix-là, on décide qui paie l'impôt et qui ne paie pas. Et donc, quels sont les groupes sociaux qui sont le plus affectés. Dans le même temps, Charles Quint essaie d'obtenir un impôt général de que l'on appelle Cisa General, qui était donc une taxe à la consommation, qui aurait été étendue à tout le monde, noble, non-noble, ecclésiastique, et négocie ça au Cortés de 1538. Et il se heurte là à un refus absolu de la part du clergé et des nobles, qui va le conduire à cesser de convoquer le clergé et les nobles à partir de 1538. Ce qui donne d'autant plus de poids aux villes. À partir de 1538, ce sont les seuls délégués des villes qui représentent le royaume. Elles représentent les trois corps, les trois ordres plutôt. Alors évidemment, les rois de Castille trouveront d'autres façons de faire payer le clergé et les nobles, ne vous inquiétez pas. Mais pas par le biais de services généraux. Ça sera toujours des impôts spécifiques, toujours décrits comme des cadeaux faits au roi, au moins au XVIe siècle, ou alors des impôts en tout cas justifiés par la qualité de noble ou la qualité d'ecclésiastique. Philippe II va donner une ampleur plus importante à la participation des villes dans le recouvrement de ces impôts. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure par quelles étapes il passait. D'abord, dans un premier temps, il essaye de rehausser le rendement des impôts qui dépendent directement de lui, donc notamment les douanes. Et puis il reprend le contrôle de certains monopoles, comme les salines. Et puis très vite, il passe à une négociation d'abord des alcabalas et ensuite l'invention des services des millions. À l'invention des services des millions, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, je vous rappelle le contexte, 1588, défaite de l'invincible Armada, il faut la reconstruire. Donc, Philippe II va se lancer dans une négociation avec le royaume pour justifier le montant de cet impôt qui est fait essentiellement pour financer ses guerres aux Pays-Bas et dans la Manche contre l'Angleterre, dans l'Atlantique. Ce qui pose évidemment le problème que soulevait Carlos tout à l'heure, ça se heurte à la doctrine fiscale qui veut que chaque royaume ne paye un impôt que pour sa défense, et normalement un impôt qui devrait être dépensé sur le territoire même. Donc il va falloir là que Philippe II élabore toute une doctrine par laquelle il explique que finalement faire la guerre aux Pays-Bas, c'est défendre la Castille. Mais il se heurte à des gens qui, comme le disait Carlos ce matin, pense différemment et explique que, par exemple, il y a la phrase célèbre d'un délégué de, je sais plus de quelle ville, de Léon, je crois, qui explique à propos des hérétiques des Pays-Bas, s'ils veulent se perdre, ils parlent de leur âme, pas de leur corps, s'ils veulent se perdre, qu'ils se perdent. Mais enfin, Philippe II parvient à convaincre les villes. Alors, il y a vraiment une dynamique de négociation que Forte a étudié à partir des actes des Cortés. Moi, je l'avais étudié quelques années après lui, à partir de la junte du soir. Parce que Philippe II, dans ces années-là, s'entoure d'une junte de conseillers qui, tous les soirs, traite pour lui la correspondance venue par le biais des conseils ou des ambassadeurs et prépare avec Philippe II les réponses à donner aux conseils, aux ambassadeurs, et puis, lorsqu'il y a des Cortés, aussi aux Cortés. Et dans cette junte du soir, ce qu'on voyait, c'est que Philippe II a demandé aux Cortés, évidemment, bien plus que ce qu'il pensait qu'elles allaient lui donner. Il faut toujours demander plus pour avoir moins. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a obtenu plus que ce qu'il croyait qu'elles allaient lui donner. Dans la junte du soir, alors je n'ai pas le souvenir des chiffres que j'avais trouvés, mais en gros, c'est de cet ordre-là. Il leur demande 10 millions pour en avoir 6. Eh bien, elles vont lui en accorder 8. Donc, elles lui en accordent beaucoup plus que ce à quoi il s'attendait. Et pourquoi est-ce qu'elles lui accordent tout cela? Il semble que les contreparties offertes aux villes sont très intéressantes. Dans ce premier service des millions, chaque ville choisit les moyens de prélèvement. Chaque ville a le libre choix des moyens de prélèvement. Alors, ce qui permet aussi au roi de ne pas régler des points litigieux, de rester dans le vague. C'est la prudence de Philippe II, bien décrite par les théoriciens de l'époque. Je parle de la prudence à la Machiavel, la prudence politique. Par exemple, dans l'accord qui est passé avec les villes, on parle d'escritura des milliones. On ne peut pas le traduire vraiment par contrat, parce que ce n'est pas de nature contractuelle, mais enfin, un engagement, si vous voulez. Dans l'accord qui décrit cet impôt, il n'est pas dit clairement si le clergé doit payer ou pas. Philippe II préfère laisser les villes, en gros, se débrouiller avec le clergé local. Ce qui fait que Valladolid, par exemple, lui demande à Philippe II de le soutenir contre son clergé et que Philippe II ne répond pas. Mais enfin, voilà, on laisse aux villes le choix des moyens, et on les laisse surtout mettre en œuvre ce recouvrement. Alors, ce que là ont montré certaines études menées cette fois au niveau municipal, c'est que pour les villes, ça signifie bien sûr, ça signifie plusieurs choses. Un accroissement de leur pouvoir, mais aussi parfois la perspective de bénéfices financiers. Les services des millions, à partir de ce moment-là, vont être presque toujours reconduits, toujours dans le conflit, c'est pas du tout une négociation irénique, toujours un conflit, une réticence initiale du royaume, le rappel au roi du fait qu'il n'a pas dépensé la fois précédente l'impôt comme il avait dit qu'il le dépenserait, un rappel, évidemment, alors, dont la charge dramatique va augmenter au fil du XVIIe siècle, un rappel de la ruine du royaume, que l'on attribue bien sûr entre autres aux impôts et aux guerres que ces impôts financent. Donc ces négociations se font toujours dans le conflit, leur résultat est toujours un compromis entre ce que le roi avait demandé, on lui donne toujours moins que ce qu'il demandait, et entre ce que les villes offraient au départ. Les villes finissent toujours par donner un peu plus que ce qu'elles voulaient au départ, surtout quand au départ elles annoncent qu'elles ne veulent rien donner du tout, ce qui se produit dans certaines réunions des Cortés. Mais voilà, on va arriver à des services des millions qui vont se traduire pour les villes par un accroissement. Alors, je disais, oui, par une perspective de gain accrue, puisque parfois elles perçoivent plus que ce qu'elles doivent remettre au roi. Dans certaines villes, on a pu le chiffrer parce que ça a laissé des traces, mais le plus souvent, ce sont des conjectures, très probables, des historiens qui ont permis de supposer qu'il y avait eu un gain. Et d'autre part, et surtout, pour les villes, c'est un accroissement de leur pouvoir. Ce que montre très bien Fortea, c'est qu'au fil des contrats qui se négocient entre 1590 pour le premier et les années 1630, à chaque contrat nouveau, les villes représentées aux Cortés vont gagner en termes de juridiction, puisque chaque ville met en œuvre le prélèvement non seulement pour elle, mais aussi pour tout le territoire qu'elle représente aux Cortés, c'est-à-dire un territoire bien plus grand que le territoire sur lequel elle exerce sa juridiction habituelle. Ce qui va aussi gagner en puissance, ce sont les institutions qui émanent des Cortés elles-mêmes, puisqu'à partir de la négociation du deuxième service des millions, avec Philippe III. Alors, cette négociation commence en 1600, on en vote un, et puis comme au bout de quelque temps, on se rend compte qu'il ne rapporte pas assez, on réunit à nouveau les Cortés et on négocie une modification du prélèvement de ce service des millions. À cette occasion-là, entre 1607 et 1611, pardon, le royaume crée, avec l'accord du roi, une commission des millions qui se charge de coordonner le prélèvement de ces services. Eh bien, c'est cette commission qui, au fil des différentes négociations, va devenir le tribunal suprême pour tout ce qui concerne le contentieux émané de ce recouvrement. Au départ, c'était le Conseil de Castille. Donc, le royaume gagne aussi en puissance. Alors, ce que le montre aussi Fortea et d'autres chercheurs à travers la négociation qu'ils ont étudiée à partir d'une seule ville et plutôt d'archives municipales dans ce cas-là, c'est que c'est bien une négociation qui se joue à trois, grosso modo entre trois acteurs, et que ce qui est décisif, c'est la négociation bilatérale entre chaque ville et le roi au moment où les procuradores, donc les délégués, reviennent dans leur ville pour présenter le projet élaboré au Cortés et pour demander à leur ville de leur donner un accord pour qu'ils votent ce service. À ce moment-là, les villes ajoutent systématiquement aux conditions générales, celles qui concernent tout le royaume et qui sont présentes dans le brouillon d'escritura élaboré au Cortés, des conditions particulières et des suppliques. Alors, ça porte généralement au début du siècle sur la confirmation des privilèges qui concernent toute la ville, de ses prébendes, etc. L'acquisition de privilèges nouveaux. Une ville peut essayer de négocier à cette occasion-là le fait qu'un procès qu'elle a avec un village voisin soit tranché en sa faveur, etc., etc. Donc il y a des contreparties. Il y a aussi très souvent directement des contreparties fiscales. La ville dit, nous voulons bien payer, mais nous sommes bien pauvres. Il faudrait pour payer pouvoir maintenir tel expédient fiscal qui nous a été accordé les années passées ou en créer un autre. Et c'est justement à partir de là que vont commencer des processus qui vont se consolider au cours du siècle. C'est-à-dire que certains impôts qui au départ avaient été créés dans une ville pour financer la ville commencent à être utilisés aussi pour le recouvrement des millions. C'est le cas à Valladolid qui avait des taxes sur le vin qui vont être utilisées finalement pour recouvrer les millions. Alors quand je disais qu'il y a des enjeux politiques forts, ceci permet de comprendre par exemple pourquoi de nouvelles villes au cours du XVIIe siècle demandent à faire partie des Cortés. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui l'obtiennent. On passe de 18 à 21, si je ne me trompe. La Galice était représentée par Zamora et obtient d'avoir sa propre représentation dans les années 1620. Ça s'achète. Et puis, comme je ne retrouve pas la page, j'ai noté le reste, mais enfin, il y en a deux autres qui obtiennent ça au cours du siècle. Ce que montre l'étude de la négociation entre ces villes et le roi, donc d'abord, c'est une négociation toujours tendue et qui va l'être de plus en plus, notamment pendant le règne d'Olivares, puisque pendant cette période, le tableau de Carlos le montrait très bien ce matin, Philippe IV a été particulièrement inventif en matière fiscale, puisqu'il a multiplié les expédients de toutes sortes, il a réussi à faire payer des impôts de multiples façons à tous les contribuables. Il a même réussi à faire payer les privilégiés, en partie, moins que les autres, proportionnellement, bien sûr, mais enfin quand même. Et donc les négociations, là, sont extrêmement tendues, d'autant plus tendues que Olivares, le favori de Philippe IV, essaie d'imposer aux villes de donner à leurs procuradores un mandat décisif, c'est-à-dire un mandat ouvert, finalement. Et ça, les villes le refusent. Ce qui fait qu'il arrive très souvent qu'à l'ouverture des Cortés, certains procuradores ne siègent pas le premier jour pour éviter que l'on examine le contenu du mandat qui leur a été donné par la ville. Donc ce ne sont pas des négociations particulièrement iréniques. D'autre part, ce que l'on peut observer pendant le règne de Philippe IV, c'est qu'il existe bien des tensions entre le roi et le royaume, mais aussi entre les villes et les Cortés, et qu'il existe finalement au XVIIe siècle deux conceptions du royaume, une conception plutôt intégratrice qui conduirait à accorder une place prééminente aux institutions émanées du royaume et qui poussent plutôt en faveur d'un impôt solidaire, bien réparti entre le royaume, avec l'idée que chaque ville représente plus qu'elle-même, qu'elle représente tout le royaume, et puis une conception plutôt agrégative en vertu de laquelle les Cortes ne sont finalement que l'accumulation des intérêts de différentes villes, et dans lesquelles ce qui doit être déterminant, c'est l'avis de chaque ville qui doit passer avant l'avis de la commission. On a une tension qui se traduit par des procès entre, par exemple, la députation du royaume qui se chargeait d'administrer l'Alcabala et qui représentait le royaume entre deux sessions, et puis la commission des millions. Enfin, l'évolution que l'on peut noter est la suivante. Le roi d'Espagne va parvenir à prendre progressivement le contrôle de la commission des millions. Alors là aussi, par étapes successives et pas forcément de façon linéaire. Il y a des va-et-vient, en quelque sorte, dans l'équilibre de pouvoir entre les Cortes et le roi. Mais il finit par faire de la commission des millions une salle du conseil de finances, mais dans laquelle entrent toujours des procuradores, choisis par les villes. Du point de vue des villes, ça reste bien une représentation du royaume. C'est un poste assez recherché que de faire partie des commissaires des millions dans le conseil des finances. Donc il n'y a pas, du point de vue des villes, d'annulation complète de la participation du royaume. Mais il est évident que voilà, la commission est beaucoup moins autonome puisqu'elle est formée aussi de conseillers du roi dont le nombre est équivalent à celui des commissaires du royaume. Et d'autre part, le roi va parvenir à envoyer dans les provinces, donc de chacune des villes, des administrateurs qui vont coordonner le recouvrement, ce qui fait qu'on assiste à la mise en place d'une espèce d'équilibre. Les villes et le royaume acceptent plus ou moins la présence dans certaines provinces d'administrateurs qui sont là pour coordonner un peu le recouvrement local, mais par contre, au niveau de chaque ville, de chaque district de corregidor, ce sont les villes qui ont la main sur le prélèvement. Et pendant le règne de Charles II, ce mouvement se poursuit. Je vois qu'il me reste peu de temps, donc je vais accélérer. On va arriver au règne de Charles II, voilà, à multiplier ses administrateurs des provinces et à finalement les constituer comme surintendants des rentes royales et millions. Alors les rentes royales, ce sont surtout les alcabalas et puis d'autres impôts créés au XVIIe sur le modèle des alcabalas, qu'ils appellent les fientos. Donc ces surintendants des rentes royales et millions sont envoyés dans toutes les villes dans lesquelles il y a des corregidors. En 1691, il y a un conflit entre le Conseil de Castille et le Conseil des Finances pour leur contrôle, qui se solde finalement en faveur du Conseil de Castille. A priori, on pourrait voir dans cette réforme une tentative d'amoindrissement du pouvoir des villes, finalement, et de la maîtrise qu'elles ont des impôts versés au roi. Cela dit, lorsque l'on lit les travaux de Béatrice Cárceles de Rea, j'ai cité 3 ou 4 titres dans la biographie, ce que l'on observe, c'est plutôt le contraire. Le Conseil de Castille, depuis le milieu du siècle, joue plutôt le rôle de relais des demandes des villes. Et lorsqu'il y a des procès, notamment entre les villes et le Conseil des Finances, le Conseil de Castille essaye toujours d'intervenir en faveur des villes, contre le Conseil des Finances ou contre les réformes du favori. Ça pourrait peut-être jouer plutôt à l'avantage des villes, que ce soit le Conseil de Castille qui exerce une tutelle sur ses surintendants des rentes royales et millions, même si ces surintendants des rentes royales et millions ont, pour leurs compétences purement financières, des compétences à rendre au Conseil des Finances. Et ce que l'on observe quelques années plus tard, moi, j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps sur la réforme des intendants donc instituée par Philippe V en 1718. À ce moment-là, ce que l'on voit, c'est que donc des intendants vont se substituer, enfin, en tout cas, sont prévus pour, parce que ça n'a pas duré longtemps. Philippe V prétend substituer au surintendant des rentes royales et millions, donc qui était désigné par le Conseil de Castille et qui était en même temps corrégidor Il prétend leur substituer des intendants. Et là, il se heurte à un front du refus des villes. Hein. Les villes défendent leur surintendant des rentes royales Émilion, qui sont en même temps corrigidor, et ce qu'elles défendent aussi très fortement, ce sont en même temps les contrôleurs d'Émilion, les contrôleurs des alcabalas, et alors le conseil des finances dresse une liste de tous les propriétaires de ces charges-là, de contrôleurs d'Émilion, contrôleurs des alcabalas, trésoriers d'Émilion, des alcabalas, etc., et on se rend compte que tous ces offices sont soit aux mains d'échevins des villes, soit de la ville en tant qu'organe collectif, soit des corps de métier les plus importants des villes. C'est-à-dire que cette réforme de Charles II, qui avait été faite pour, en quelque sorte, reprendre un contrôle des services, enfin du moins c'est comme ça qu'on l'avait interprété, reprendre un contrôle des services des millions et des alcabalas pour le roi, a finalement été en quelque sorte, je trouve pas le mot, enfin, les villes ont réussi à reprendre la maîtrise sur ces surintendants et à finalement à retourner la réforme en leur faveur. Donc, on parvient bien, finalement, par le biais d'une négociation qui a souvent été très musclée, à maintenir un équilibre très instable, toujours renégocié, hein, mais qui préserve au niveau local le contrôle des villes sur les impôts du roi. Dernière étape, je vais aller beaucoup plus vite. Ceci n'a pas évidemment suffi à renflouer les caisses du roi. Donc ce à quoi on assiste aussi à partir surtout des années 30 du 16e, du 17e siècle, c'est-à-dire au plus fort de la guerre de 30 ans et puis au moment où la France rentre en guerre contre l'Espagne, c'est à l'apparition d'une fiscalité négociée directement entre le roi et les villes. En plus des services votés par le royaume, le roi demande aux villes des services individuel en quelque sorte, ville par ville. Alors des services, des dons gratuits, des ce qu'on appelle donativos. Alors là encore, la négociation passe toujours par des contreparties offertes aux villes en termes de pouvoir, de confirmation, de privilèges. Cet accroissement de la pression du roi sur les villes va se traduire dans les villes par un accroissement très important de leurs dettes. Et c'est là que les études des finances municipales sont intéressantes. On a quelques cas qui ont été bien étudiés, notamment ceux de Valladolid, de Séville, de Saragosse, de Valence, qui montrent que, grosso modo, je ne peux pas rentrer dans des cas particuliers, hein, mais bon, on peut prendre le cas de Valladolid, par exemple. Valladolid, au XVIe siècle, a une dette qui, dont la composition ressemble à celle du roi, c'est-à-dire que elle se fait sous forme de vente de rente, les fensos, sauf que ces rentes sont très différentes des juros, parce que le juro, même si c'est une rente qui est payée hein, donc par annuité sur des caisses fiscales du roi, le juro, il est considéré comme une grâce. Hein. Et je pense que les archives desquelles tu parlais ce matin, c'était bien les archives de la section Mercedes, hein, à Simancas. Hein. C'est ça ? Les juros, c'est une grâce, c'est-à-dire que le roi s'engage moralement à les payer, mais enfin, s'il ne paye pas, on ne peut pas faire grand-chose. Alors que pour un créancier, l'avantage d'un finso, c'est qu'on peut assigner la ville devant les tribunaux, si elle ne paye pas. Alors, Valladolid, donc, émet des finsos au XVIe, mais la plupart de ces finsos servent à financer des dépenses qui concernent Valladolid, l'approvisionnement, la voirie et puis la reconstruction de la ville après son incendie en 1561. Et la ville parvient régulièrement à éteindre ses finsos, c'est-à-dire à racheter la rente, donc en repayant la somme qui lui a été versée, qu'on appelle le principal. C'est le capital de la rente, si vous voulez. Au XVIIe siècle, au contraire, la ville continue à s'endetter. Elle n'est plus capable de rembourser. Le service de cette dette augmente hein, par rapport aux revenus municipal. Et la raison essentielle de la création de finsos, ce sont les impôts du roi. Ce phénomène-là se reproduit dans d'autres villes avec une chronologie variable. Hein. Les villes, et notamment les grandes villes, notamment celles qui sont au Cortés, alors peut-être que c'est parce que c'est celle qu'on a le plus étudiée. On a moins d'études sur des villes, sur les finances de villes qui n'étaient pas représentées au Cortés. Mais ces grandes villes, donc représentées au Cortés, s'endettent essentiellement pour payer des impôts au roi. Et d'autre part, ce que l'on observe, c'est que dans la gestion des impôts de ces villes-là, enfin des finances de ces villes-là, plus exactement, parce qu'il y a la gestion, il n'y a pas que le recouvrement de l'impôt, il y a la dépense et le crédit, il arrive assez souvent qu'il y ait une sorte de confusion entre les recettes destinées au roi et les recettes destinées à la ville. C'est-à-dire qu'une même taxe va voir son produit réparti entre le roi et la ville. On ne sait plus très bien ce qui appartient à la ville, ce qui appartient au roi. Alors, ce qui complique les choses, et ça a été bien étudié par exemple par Bernardo Ares, qui est cité en première page, Corruption politica y centralización administrativa, dans le cas de Cordoue, c'est aussi bien étudié à Alicante. Les villes sont gérées de façon tout à fait traditionnelle et de façon qui n'est peut-être pas très différente de la façon dont le roi gère son propre argent, c'est-à-dire que ce sont des grands seigneurs libéraux qui pensent d'abord à la dépense et qui, une fois qu'ils ont dépensé, vont se demander comment créer des recettes pour gérer cette dépense. Dans une partie de ces villes, la comptabilité n'est pas forcément élaborée pour avoir une mesure précise du service de la dette. Hein, pas forcément par incapacité et par méconnaissance des comptes, hein, parce que les trésoriers, en général, ce qu'on appelle les majordomes des rentes, hein, maîtrisent assez bien ça, mais peut-être pour des raisons d'ordre culturel. Hein, on pense que l'intendance suivra, qu'on finira par trouver les recettes et qu'on n'a pas forcément besoin de maîtriser cette dette. Hein. Lorsque l'on examine la structure des dépenses, on voit que les dépenses somptuaires restent très importantes. Hein. C'est vraiment une gestion de seigneurs, de grands seigneurs libéraux et pas une gestion d'entrepreneurs du tout. Hein. Ce qui fait qu'il est d'autant plus difficile lorsque l'on examine l'organisation des caisses de ces villes et leurs comptes de distinguer ce qui revient au roi et ce qui revient aux villes. Hein. Mais en gros, voilà, les villes s'endettent de plus en plus pour financer le roi et dans certaines villes, le roi parvient à procéder à des accords très particuliers et très avantageux pour lui. Il parvient à obtenir, en particulier à Séville très tôt, que les villes créent des rentes, des fensos, directement pour garantir ses propres juros. Ce qui, évidemment, intéresse les créanciers pour la raison que je vous donnais tout à l'heure. On peut assigner une ville devant les tribunaux. Donc c'est un fonctionnement comparable et que les acteurs comparent, d'ailleurs, à l'époque, aux rentes de l'hôtel de ville de Paris. Alors c'est un système, d'ailleurs, qu'on a essayé de généraliser. Moi, j'avais étudié ça pendant ma thèse. Et là, les villes s'y sont opposées. Il y avait un projet de réforme qui a été négocié pendant une cinquantaine d'années dans la monarchie espagnole et notamment en Castille, qui a été négocié au Cortés. Et les villes s'y sont radicalement opposées. Mais le roi parvient à l'imposer à certaines villes. Alors peut-être que les villes s'y opposaient, non pas sur le principe, hein, mais peut-être que pour elles, c'était plus intéressant aussi de le négocier bilatéralement, parce que bilatéralement, elles obtiennent des contreparties. Hein. Par exemple, pour ces villes, la contrepartie, c'est que son consulat va pouvoir gérer la perception du produit des douanes, les almojarifas, gos, etc., etc., hein. Alors que peut-être que par le biais d'une négociation collective, ça aurait été plus difficile. Donc on a toujours des équilibres et des relations qui passent par l'échange réciproque de prestations et de services. C'est pas une relation à sens unique. Ce que je voulais vous dire peut-être pour finir, c'est qu'à mon avis, tout ça, on a quand même intérêt à le replacer dans le cadre d'une culture politique de la négociation qui n'affecte pas que les finances. Hein, et je voulais vous citer deux livres qui pourraient vous intéresser, qui ne concernent pas les finances, même s'il y a quelques articles sur les finances. D'une part, c'est le livre dirigé par Alicia Esteban, en page 2, « Servir al rey en la monarquía de los Austrias ». Dans ce livre, vous avez plusieurs articles dont les auteurs se sont intéressés au contenu que les acteurs donné au service. Et ce que montrent ces auteurs, c'est que servir, ça n'est pas exécuter. Au mieux, c'est obéir. C'est-à-dire, c'est reconnaître la légitimité de l'ordre, de l'autre lorsqu'il nous donne un ordre. mais ça n'est pas obéir, et ça n'est pas exécuter. Et que lorsque l'on obéit, c'est toujours avec contrepartie. Ce qui peut permettre de comprendre que, par exemple, pour les regidores, il soit beaucoup plus facile de s'engager à donner leur vie que leur bien au roi. Par exemple, hein, traduction pratique et concrète. Donc c'est intéressant parce que ça peut permettre de mieux comprendre ce qui se noue lorsque le royaume négocie des services avec le roi. Hein. Et d'autre part, un essai très intéressant qui vient de sortir, qui a été publié par une équipe, qui est en fait une équipe émanée un peu de ceux qui ont aussi été à l'initiative du réseau de chercheurs Columnaria. C'est le livre dirigé par Cardim, Herzog, Ruiz-Ibáñez et Sabatini. Je vous prie de m'excuser pour mon anglais. Polycentric Monarchies. C'est un livre qui donc est sorti il y a 3 mois, hein, peut-être. Moi, je l'ai eu en main il y a à peu près au mois de décembre. Dont les auteurs se sont interrogés sur les raisons qui faisaient que, grosso modo, les monarchies ibériques, l'espagnole et la portugaise, tenaient ensemble, ne se désagrégeaient pas au XVIIe siècle, malgré les difficultés militaires, économiques, etc., etc. Et ce que les auteurs montrent, c'est que ce qui est justement un peu à la base de la solidarité entre les différents territoires de ces monarchies, c'est justement une renégociation permanente des relations entre les groupes sociaux et entre les territoires. Alors, ce qu'il montre dans ce livre, c'est que cette négociation, elle s'articule non pas comme un rapport entre un seul centre et une périphérie, mais qu'il faudrait plutôt concevoir ces monarchies comme voilà, des espaces polycentriques, c'est-à-dire dans lesquels il y a plusieurs centres qui négocient entre eux, et pas toujours en passant par Madrid. Voilà, et dans ce cadre-là, on peut aussi réétudier la négociation financière et fiscale, qui n'est finalement qu'une des facettes d'une négociation politique plus générale qui est au cœur de la relation politique à cette époque-là. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai largement dépassé le temps qui m'était imparti. Je vous prie de m'excuser.